Alors, le deuxième étage de l'Institut du sang que vous avez imaginé examine les relations existantes entre le sang et la géographie, d'une part, et entre le sang et l'histoire. Vous dites à ce propos, le sang définit l'homme au long des parallèles, des méridiens, des siècles et des millénaires.
Oui, c'est un concept que nous avons développé vers 1957-1960, que les caractères du sang d'un homme dépendent du lieu où il vit, et plus encore peut-être du lieu où ont vécu ses aïeux. Et ceci a des conséquences pour la géographie et pour l'histoire. Par exemple, l'étude des groupes sanguins a permis de reconnaître que les Indiens d'Amérique, les Peaux-Rouges, les livres de notre enfance, étaient des Mongols. Ils ont les mêmes groupes sanguins que les Mongols, et ils sont venus il y a 50 000 ans par l'isthme de Bering. Il y a aussi des conséquences pour l'histoire. Peut-être la plus belle démonstration est-elle celle de l'histoire d'une maladie qu'on appelle la porphyrie, qui a sévi dans la famille royale d'Angleterre, de Marie Stuart à son fils Jacques Ier, et à la fameuse Henriette d'Angleterre, Madame Summer, Madame est morte, et pour finir avec George III, cette maladie donne des urines de couleur très sombre, parce qu'il y a un pigment anormal, la porphyrine, dans l'urine. Elle est héréditaire, elle donne des troubles psychiques et des troubles abdominaux, et l'exemple le plus remarquable est celui du roi George III d'Angleterre, dont qui avait des troubles psychiques, et l'historien et l'écrivain André Monroy a dit « Quand le roi prit les arbres de son jardin pour des grenadiers prussiens, il fut raisonnable de nommer un régent », en effet.
L'anthropologie, ayant longtemps été avant tout morphologique, devient biochimique, et du point de vue des caractères sanguins, on l'a déjà dit, il n'y a pas d'inégalité fondamentale entre les hommes, mais seulement des différences. Mais les inégalités qui subsistent sont dues essentiellement à l'environnement et aux facteurs géographiques et climatiques.
Oui, car en effet, cette science nouvelle, qui porte le nom de hématologie géographique, comporte deux parties. D'abord, nous venons d'évoquer les caractères innés, mais aussi l'influence de l'environnement, qui est capitale. Je peux citer un seul exemple assez éclatant, c'est celle des populations de la cordillère des Andes, en Amérique du Sud, qui vivent à 3500-4000 mètres d'altitude, et qui ont deux fois plus de globules rouges que les populations de la plaine, parce que, comme il n'y a pas assez d'oxygène, elles ont besoin de plus de globules rouges.
Justement, il y a une anecdote, je crois, à ce propos, à propos d'une guerre entre la Bolivie et...
Et une autre caractéristique des habitants de la montagne, c'est que à cette altitude, il n'y a plus de virus, plus de microbes, plus de parasites. Alors, depuis des milliers d'années, ces immunoglobulines que nous évoquions tout à l'heure ont disparu, ils n'ont pas besoin. Alors, il y a eu, vers 1930, une guerre entre deux pays sud-américains, le Paraguay et la Bolivie, pour la possession d'un désert appelé le Chaco, qui était probablement riche en pétrole ou en minerais. L'armée bolivienne était très forte, instruite par des instructeurs allemands. L'armée paraguayenne était médiocre. Tout le monde pensait que la Bolivie allait gagner rapidement. Pas du tout, c'est le Paraguay qui a gagné. Pourquoi ? Eh bien, l'explication a été apportée par l'étude du sang de ces soldats de Bolivie. Ils étaient recrutés dans la montagne, ils descendaient dans la plaine, et là, ces soldats qui, dont les parents, depuis des milliers d'années, n'avaient plus connu l'infection, n'avaient aucun moyen de défense, et avant de rencontrer l'armée paraguayenne, ils ont rencontré les microbes, le bacille de la fièvre typhoïde, du choléra, etc. Et c'est une armée de malades ou de mourants qui a été vaincue par le Paraguay.
Vous dites que le sang qui exprime l'hérédité, qui est aussi le miroir de l'écologie, est aussi un témoin des activités humaines. On peut donc parler d'hématologie ethnique.
Oui, il y a également une hématologie ethnique en fonction de ce que nous avons dit. Et il y a même alors là des phénomènes culturels extrêmement importants. Je vais donner un seul exemple mais qui est très que tout le monde comprendra. Nous connaissons tous les malheurs qui ravagent à l'heure actuelle le Liban, tout petit pays, mais dans lequel les gens ont tous des religions différentes, et mon ami Ruffier, que j'ai déjà cité, et Taleb Goyan de la faculté de médecine de Beyrouth, ont étudié les caractères sanguins de cette population, quatre chrétiennes, catholiques, orthodoxes, maronites, arméniens, et trois mahométanes, sunnites, chiites et druzes. Et ils ont eu la surprise de trouver qu'il y avait une image sanguine, un tableau sanguin propre à chacune de ces populations. Quand ils sont venus exposer les résultats de leurs travaux dans l'institut de recherche que je dirigeais alors, il y a eu une discussion, et un jeune chercheur a dit « c'est pas étonnant, on a des caractères génétiques qui vous prédisposent à être catholique ou être druze ou être chute ». C'était erroné, l'explication est autre, l'explication est ce qu'on appelle dans le langage des démographes « endogamie ». C'est-à-dire qu'on se marie à l'intérieur d'une population. Jamais un garçon druze n'ira épouser une fille maronite. Jamais un garçon arménien n'aura épousé une fille druze. Et à cause de ça, depuis 1000 ans, 1500 ans, les caractères sanguins sont restés les mêmes, tels qu'ils étaient par hasard au début, et définissent une population. Ça rejoint ce que vous disiez, un phénomène culturel, hautement culturel. La religion définit les caractères sanguins d'une population.
La plupart des groupes sanguins sont présents dans toutes les populations, mais leur répartition varie. On peut ainsi dessiner le profil sanguin d'une population et de là reconstituer l'histoire des migrations humaines.
Oui, c'est en effet ce que nous avons déjà évoqué avec les Mongols qui ont envahi et qui ont migré en Amérique. Il y a même une histoire tout à fait curieuse qui est celle d'un groupe sanguin qu'on appelle Diego. Vous savez que lorsque les jésuites ont converti les Indiens d'Amérique, pour assurer la valeur de la conversion et au catholicisme, ils ont donné des noms chrétiens. Il y a une tribu d'Indiens du Venezuela qui s'appelle la tribu Diego. Et un très éminent chercheur qui s'appelait Lairis, directeur de Caracas au Venezuela, a découvert un nouveau système de groupe sanguin dans cette tribu indienne du Venezuela, qu'il a appelé tout naturellement le groupe Diego. Et après, on a eu la surprise de retrouver le groupe Diego en Asie orientale, chez les Chinois, en Asie du Nord-Est, chez les Sibériens, et de retracer ainsi le trajet dans le lointain des âges. Une tribu asiatique a suivi en partant de Chine, remontant vers la Sibérie, franchissant l'isthme de Mérine et descendant tout le long du continent américain pour se terminer au Venezuela. C'est une très belle histoire due à l'hématologie.
Donc, on sait donc grâce à ça comment a été peuplée l'Amérique au départ, et je crois que c'est la même chose un peu pour l'île de Pâques.
Oui, alors pour l'île de Pâques, c'est une aventure qu'a vécu mon ami Dossé dont nous parlions tout à l'heure. L'île de Pâques, tout le monde la connaît parce qu'on parle de ces magnifiques statues dont on ne sait pas d'où elles sont venues. C'est sur cette terre, l'île qui est la plus éloignée de toute autre terre. Il y a 3000 km d'un côté et 2500 km d'un autre. Alors Jean Dossé a été étudié les groupes sanguins de l'île de Pâques, puis de Polynésie, puis d'Amérique du Sud, Pérou et Chili, et il a démontré que les migrations s'étaient faites d'Océanie vers l'Amérique du Sud, c'est-à-dire que dans le lointain des âges, des populations sont venues de Polynésie, fait escale dans l'île de Pâques, puis ont continué vers le Chili et le Pérou. Nous nous rappelons tous l'admirable aventure du Kon-Tiki et des marins norvégiens qui ont refabriqué avec Thor Heyerdahl un radeau comparable à ceux de la préhistoire et qui ont eux cru démontrer que l'immigration s'était faite d'Amérique vers la Polynésie. Eh bien, l'aventure du Kon-Tiki est un admirable exploit sportif, un exploit héroïque, mais c'est une erreur scientifique.
Ce qui est intéressant aussi dans la reconstitution des migrations, c'est que les cartes donc des migrations qui sont établies par l'hématologie viennent en concordance avec les cartes qui sont établies par l'archéologie et la linguistique, en particulier pour les migrations indo-européennes.
Oui, il y a un grand intérêt, et c'est comme ça que nous avons commencé, parce que quand on propose une nouvelle méthode, on doit d'abord la vérifier. Or, le langage conduit par un maître éminent, mort malheureusement il y a peu d'années, le professeur Dumézil, avait montré que les migrations indo-ariennes étaient venues de l'Inde vers l'Europe et que le même mot veut dire cheval en Inde et en Irlande. Et les groupes sanguins confirment. Alors dans d'autres cas, c'est l'étude des groupes sanguins qui commence. Ainsi, après avoir fait la démonstration dont nous avons parlé sur l'origine des Indiens d'Amérique qui sont venus d'Asie, j'ai pu lire un travail très intéressant par le même professeur Dumézil. Il s'était demandé quels sont les mots qui désignent les cinq premiers nombres, 1, 2, 3, 4, 5, d'une part dans la langue mongole, d'autre part dans la langue des Indiens du Pérou. Ce sont les mêmes mots. Alors là, vous voyez une concordance entre deux disciplines très lointaines, la science du langage, la linguistique et la science du son.
Je rappelle que c'est un peu le thème de l'exposition du Musée de l'Homme, tous parents, tous différents. Un autre aspect du lien entre le sang et l'histoire, dont on a déjà un petit peu parlé aussi, est la transmission des maladies héréditaires du sang, telles l'hémophilie, dans les grandes familles royales européennes, et qui a peut-être modifié le cours de l'histoire.
Oui, nous avons déjà dit un mot à propos de la porphyrie, mais l'hémophilie est en effet un autre exemple, plus récent. Ça commence avec la reine Victoria, impératrice des Indes, le siècle victorien, enfin. Mais en plus, pour nous médecins, elle était conductrice d'hémophilie. Il faut rappeler que l'hémophilie est une maladie héréditaire transmise par des femmes qui restent en bonne santé à la moitié de leurs fils. Et les filles peuvent être aussi conductrices, comme nous disons. Or, à l'époque de la reine Victoria, rien n'était plus recherché qu'une princesse d'Angleterre. Tous les monarques européens voulaient épouser une princesse anglaise. Et en conséquence, l'hémophilie s'est répandue en Europe. Et il y a deux exemples importants. Le premier concerne l'Espagne. Une des petites filles de la reine Victoria épouse le roi Alphonse XIII. Et les deux enfants aînés sont hémophiles. Il se trouve que j'ai connu un médecin suisse très éminent qui s'appelait Feisley, qui était attaché à la cour d'Espagne pour s'occuper des deux enfants hémophiles, un spécialiste d'hémophilie. Il avait un sommeil assez profond. Et une nuit qu'il dormait bien, les enfants sont sauvés. Ils avaient 15-16 ans. Ils ont été rejoints de charmantes demoiselles. Ils sont partis en auto. Un accident d'auto est arrivé. Et la mort par hémorragie pendant que dormait le médecin chargé de s'occuper d'eux. Et naturellement, la mort de ces deux enfants aînés n'a pas été sans influence sur l'histoire d'Espagne, l'abdication ultérieure du roi, etc. Mais un exemple beaucoup plus tragique encore est celui d'une autre descendante de la reine Victoria qui avait épousé le tsar Nicolas II, le dernier tsar de Russie. Et la famille impériale de Russie avait 5 enfants, 4 filles et un seul fils, le petit Alexis Hémophile. Et Alexis était atteint d'une forme d'hémophilie beaucoup plus grave que celle de ses cousins espagnols. Et comme beaucoup d'enfants hémophiles, on lui défendait tout. Et comme beaucoup d'enfants, il n'avait aucune idée de faire ce qui était défendu. Et tous les historiens nous ont conté le petit Alexis revenant avec une hémorragie abondante parce qu'il s'était cogné en faisant de la bicyclette ou du bateau, etc. Et c'est à ce moment-là qu'intervient un personnage tout à fait étrange, qui est le moine Rasputin, qui... prend une autorité formidable auprès du tsar et de la tsarine parce que, nous racontent des historiens, il améliorait la santé des petits tsarovitch. Alors nous nous sommes demandé comment il pouvait l'améliorer. Il y avait plusieurs hypothèses. La première, c'est que c'est pas vrai, qu'il y avait une amélioration spontanée. La seconde, c'est qu'il agissait par hypnose, et on sait que l'hypnose est capable d'améliorer certains troubles. Mais ces deux hypothèses étaient fausses. Nous savons maintenant qu'il y a une troisième explication. Les accidents des hémophiles sont souvent horriblement douloureux. Et à l'époque concernée, pratiquement le seul médicament de la douleur était l'aspirine. Et tous les historiens nous ont représenté Rasputin chassant les médecins, chassant les médicaments, envoyez-moi ces médecins dehors, écartez les médicaments. Or, nous savons depuis, ce qu'on ne savait pas à l'époque, que l'aspirine est très dangereuse pour les hémophiles, qu'elle aggrave les hémorragies. Et on peut penser légitimement que Rasputin améliorait le tsarovitch en l'empêchant de prendre de l'aspirine. Or, l'influence que Rasputin a prise sur le tsar et la tsarine, que tous les historiens ont décrite, a assurément joué un rôle dans l'évolution des événements de la Russie de l'époque, et Kerensky, qui fut le premier chef d'État provisoire après la révolution qui a mis à bas le régime monarchique en Russie, a écrit « Rasputin et l'hémophilie tsarovitch ne sont pas les causes de la révolution communiste, mais ont favorisé son succès ».
Nous arrivons maintenant au troisième et dernier étage de l'Institut du sang, où sont abordés des aspects plus généraux tels que l'éthique et la symbolique du sang. Alors vous êtes très concerné par le premier, c'est-à-dire l'éthique, puisque je rappelle que vous êtes président honoraire du Comité consultatif national d'éthique. J'aimerais savoir si, lors des réunions de ce comité, vous n'êtes pas parfois aussi perplexe et indécis face aux progrès scientifiques que les jurés et les juristes dans le livre de Vercors, Les animaux dénaturés, qui furent amenés, dans ce roman, à donner une définition juridique de l'être humain.
Oui, on peut rappeler que ça, je suis heureux que vous évoquiez Les animaux dénaturés, c'est un roman que j'admire beaucoup. Vercors, grand romancier, décrit une troupe d'explorateurs anglais qui, dans une île lointaine du Pacifique, découvre une population, ça porte bien ce que c'est. Est-ce que ce sont des singes, est-ce que ce sont des hommes? Alors, pour en avoir le cœur net, si je puis dire, un des explorateurs a commerce avec une femme ou guenon, et il naît un enfant, et l'explorateur tue le nouveau-né. Et c'est ça, et le livre, c'est le procès. C'est l'explorateur devant la Cour de justice de Londres. S'il a tué un petit singe, c'est regrettable. S'il a tué un enfant, c'est un infanticide, c'est un crime. Et leur justice qui préside la Cour anglaise se dit, ben, mon code va me donner la réponse. Il ouvre le code a tout prévu sauf la définition de l'homme. Alors le magistrat demande aux explorateurs de retourner dans l'île concernée, d'observer mieux encore ces personnages que le romancier Vercors appelle les tropies, et un soir, un des explorateurs découvre les tropies qui rendent un culte à l'un d'entre eux qui vient de mourir. Ils ont une religion, ce sont des hommes, aucun animal n'a de religion. Et en effet, au comité d'éthique, ils ont eu bien souvent à nous poser la question de la définition de l'homme, non pas comme Vercors, pour un homme fait, mais aux deux extrémités de la vie. Par exemple, est-ce que quelqu'un qui est en état de ce que le langage des médecins appelle état végétatif chronique, c'est-à-dire qui a perdu les trois quarts de ses facultés intellectuelles, est-ce qu'il est encore un homme? Est-ce qu'on a le droit, comme malheureusement ça a été fait par certains, de s'en servir comme un animal d'expérience? Réponse sûrement non. Problème encore bien plus difficile, à l'origine de la vie, qu'est-ce que c'est qu'un embryon? Il y a à l'heure actuelle, comme vous le savez, des très importantes échanges de vues devant le Parlement français qui est en train de voter une loi sur la bioéthique où on se pose cette question, qui est très très importante. De tous les phénomènes de la vie, l'un des plus remarquables est celui-ci. Tous, vos auditeurs, vous, moi, nous venons d'une seule cellule, l'ovule maternel fécondé par le sperme paternel. Cet ovule Cette unique cellule comptait tout en puissance, le foie, le cœur, le poumon, le cerveau. Et c'est la raison pour laquelle le terme de personne potentielle nous a paru au comité d'éthique bien correspondre à la définition de cet embryon. Et ce n'est ni une personne complète, mais c'est non pas non plus un amas de cellules comme certains le voulaient, c'est une personne potentielle.
Je crois que vous tenez essentiellement à trois principes dans le, au niveau de l'éthique, hein, ce qui sont le respect de la personne, le respect de la connaissance et le refus du lucre.
Oui, il y a même quatre principes. Le respect de la personne, on en parlait. Le respect de la connaissance, il y a longtemps eu des personnes pour dire « arrêtez la recherche ». Si on les avait écoutés en 1900, nos enfants mourraient encore de méningite tuberculeuse ou de diphtérie. C'est vrai, c'est qu'il y a des précautions à prendre. Il y a deux précautions, une dans le temps, une dans l'espace. La précaution dans le temps, c'est ce qu'on appelle le moratoire, c'est-à-dire d'arrêter la recherche pendant un an, deux ans, pour réfléchir, puis ensuite on reprend après avoir pris les précautions voulues. La deuxième précaution, c'est dans l'espace. Quand il y a un sujet vraiment très délicat, il faut autoriser qu'un tout petit nombre de laboratoires très très compétents à poursuivre la recherche avant qu'on ait abouti à des conséquences précises. Troisième principe, le refus du lucre. Et vous savez comme moi que malheureusement, dans un grand nombre de pays, on vend les organes. Étant au Brésil il y a quelques années, j'ai vu dans un journal du soir, aux petites annonces, Fernando Gomez, bonne santé, vend son rein droit, prêt à débattre. Bon, ce qui n'est guère acceptable quand même. Et le quatrième principe, c'est la responsabilité du chercheur. Pendant longtemps, les chercheurs ont eu tendance à dire, j'ai fait une découverte, que la société se débrouille. C'est un peu le Jean Ponce Pilate, n'est-ce pas? Maintenant, fort heureusement, ils ont pris conscience de leur responsabilité et ils comprennent que c'est à eux, par les progrès de leur recherche, à tenter de régler le problème moral difficile que la recherche précédente a provoqué.
La prédiction pose aussi, la médecine prédictive pose aussi beaucoup de problèmes d'éthique, et je crois que c'est un peu ce qui est dénoncé par, en particulier, Jacques Testard.
Oui, certainement, n'est-ce pas? Et en particulier, le fait d'être capable de modifier l'embryon est d'une très, très grande importance. Ceci pose de très grands problèmes à quelques mois de l'année 1993, où les frontières européennes vont, dans beaucoup de domaines, être abolies. Par exemple, les Anglais considèrent qu'il est tout à fait naturel de faire un diagnostic de sexe chez l'embryon très très tôt et de faire ce qu'on veut après. Nous, en France, nous avons demandé qu'on soit autorisé à faire ces recherches que lorsqu'il y a une maladie héréditaire liée au sexe, comme l'hémophilie. Autrement, vous voyez ce qui va arriver, on va dire, il y a trop de filles, bon, on détruit toutes les filles alors qu'elles sont les embryons. Et je crois qu'il faut être très très ferme sur ce point.
Et le comité d'éthique est justement très concerné par ce problème?
Très concerné par ce problème, il a rendu plusieurs avis. Le comité a le grand avantage d'être consultatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas force de loi. Mais enfin, ses avis sont pris en considération et je crois que le Parlement français a évalué très favorablement dans ce domaine.
Le sang a eu dans beaucoup de cultures différentes une forte valeur symbolique, depuis les Aztèques jusqu'aux sociétés traditionnelles africaines.
Oui, c'est un événement tout à fait remarquable. La définition de l'homme a été très variable. Ça a commencé, quel est l'organe qui définit l'homme? Ça a commencé par le foie, le fameux mythe de Prométhée dont le foie est déchiré par un aigle ou un vautour est caractéristique. Ultérieurement, ça a été le cœur des héroïnes de Racine, les glandes endocrines, le cerveau maintenant. Mais le sang, tout au long de l'histoire de l'humanité, joue un rôle capital. Il apparaît dans les religions primitives. Comme vous l'avez cité, les Aztèques égorgeaient et faisaient saigner 25, 30, 50 jeunes filles, simplement pour des questions météorologiques, pour qu'il pleuve et que la culture puisse se développer. Les religions très évoluées, comme le christianisme, ont joué encore un rôle capital au sang. Il suffit de songer au temps essentiel de la messe. Et c'est un phénomène très très remarquable, et il n'y a pas que les religions, ça rejoint aussi les poètes, les écrivains, qui bien avant les savants ont perçu l'importance du sang. Il suffit de relire les grands tragiques grecs pour trouver constamment une allusion à l'importance du sang, avec, comme c'est souvent le cas dans ce domaine, un bon et un moins bon côté. Ce qui est le bon côté, c'est la reconnaissance très précoce, par les tragiques grecs, plus par les tragiques français, Corneille, Racine, du rôle que joue le sang. Ils ont compris, bien avant les médecins, que le sang définissait l'individu. Ce qui est moins bien, c'est qu'ils considèrent qu'il y a des bons et des mauvais sangs. Et qu'il y a des cas, ça apparaît constamment dans les tragédies, où on rejette une union, parce que la fille serait d'un sang de moins bonne qualité. Nous savons actuellement, nous l'avons rappelé ensemble tout à l'heure, qu'entre les hommes, il n'y a pas inégalité, mais différence, et que tel caractère sanguin désavantageux là peut être avantageux ailleurs.
Mais les cultures traditionnelles ont souvent fait preuve justement de beaucoup d'intuition face au sang, comme par exemple les lobbies qui sont un peuple d'Afrique.
Oui, alors il y a eu De remarquables études conduites chez les populations africaines, car le sang joue un très grand rôle, et j'évoquais dans ce livre le très beau travail fait par une dame anthropologue française qui a étudié les mœurs des lobbies. Les lobbies sont une population africaine qui vit aux confins de Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, et qui ont une pensée, une étude très très remarquable sur le caractère du sang, différent de la nôtre, n'est-ce pas, mais qui montre l'importance que ces sociétés considérées comme primitives, qui ne sont pas tellement, ont dans ce domaine. D'ailleurs, mon très éminent confrère et ami, professeur Claude Lévi-Strauss, a dit quelque part qu'il n'y avait pas un seul des problèmes que posaient nos sociétés d'éthique en période contemporaine qui n'ait pas également été abordé par les sociétés primitives.
Un homme pour qui vous avez beaucoup d'admiration s'est aussi beaucoup intéressé au sang. Il s'agit de Paul Valéry, qui, à propos de son poème intitulé La Jeune Parc, a dit « J'ai essayé là de faire de la poésie avec l'être vivant ».
Oui, alors moi j'ai en effet beaucoup d'admiration pour Paul Valéry, et comme philosophe et comme poète, et La Jeune Parc est un de ses plus beaux poèmes, et dont je saurais trop recommander la relecture à nos auditeurs, est un poème complètement ensanglanté. Il y a le sang de bout en bout qui apparaît tout moment, et c'est tout à fait émouvant et remarquable de voir comment un très grand poète contemporain a été inspiré par le sang.
Dans la conclusion, vous faites un peu de prospective pour la fin du XXIe siècle, que vous imaginez économiquement plus équilibré, où les anémies par carence auraient disparu, et du côté de la science, hématologie et neurologie se sont rencontrées, une pathologie atomique est née faisant suite à la pathologie moléculaire, et d'autre part on analyse le rôle spécifique de chaque type de cellule, de la moelle osseuse et du cerveau. Alors quelle est la part des choses qui vous paraissent plausibles ou utopiques dans ce scénario ?
Oui, vous savez, quand on a des choses à dire, il y a deux méthodes. Ou bien vous pouvez, comme Voltaire, faire venir un habitant d'une planète lointaine, un habitant de Sirius, qui dit ce qu'il a sur le cœur. Ou bien vous pouvez vous projeter dans l'avenir. C'est ce que j'ai essayé de faire en mode de conclusion, et en rappelant que toute prédiction de l'avenir doit être extrêmement modeste. Parce que deux sortes d'événements peuvent le modifier. La première, nous ne voyons que trop, c'est l'arrivée d'une nouvelle maladie, comme est actuellement le sida, et qui est un événement dramatique. Mais ce n'est pas le dernier. On peut être tout à fait sûr que dans 80 ans, dans 100 ans, il y aura de nouveau un événement de ce genre qui se souviendra. Ça, c'est le côté défavorable. Puis il y a un autre côté favorable, c'est l'arrivée d'un homme de génie qui change le cours des choses en biologie, en médecine. N'oubliez pas qu'en 1840, c'est pas loin 1840, ça fait 150 ans, on croyait encore avant Pasteur que les souris naissaient du fromage, qu'il y avait une génération spontanée. C'est Pasteur qui a écroulé ça. On croyait encore avant mon illustre homonyme Claude Bernard au vitalisme. Quand moi je faisais mes études de médecine, on nous parlait latin de la vis atergo, la force qui pousse par derrière. Bon, et ceci a été balayé par l'explication de Claude Bernard. Donc, on peut espérer, c'est la raison des quelques passages que vous venez d'évoquer, qu'un homme de génie viendra régler les problèmes non résolus. Le plus important à l'heure actuelle est assurément celui du système nerveux. Nous ne savons pas du tout encore en quoi l'homme diffère de l'animal. Tout à l'heure, nous avons évoqué l'aventure du roman de Vercors et des tropies. Bon, très bien, l'homme est différent de l'animal, mais comment ? Comment ça s'explique? Nous ne le savons pas à l'heure actuelle. Et ça, c'est probablement ce que va apporter le XXIe siècle.
Justement, je crois que vous parlez à propos de l'hématologie. Vous dites qu'elle a permis de donner une définition de l'homme. Est-ce qu'on a vraiment maintenant une définition de l'homme?
Eh bien, il y a deux définitions de l'homme pour les biologistes. La première est apportée par l'hématologie. Quand on pense qu'il y a des milliards et des milliards de combinaisons de groupes sanguins, chaque homme est un être unique, différent de tous les autres. Je croyais ça comme une affirmation définitive. Jusqu'au jour où, me trouvant en Égypte, je me suis trouvé en même temps qu'une équipe canadienne qui étudiait la momie d'un tisserand, qui s'appelait Naxt, qui vivait au temps de Ramsès II, donc il y a 33 siècles. Et les Canadiens, étudiant cette momie, ont fait trois constatations. Premièrement, ils ont trouvé la cause de la mort, qui est une maladie parasitaire appelée bilharziose, qui sévit encore actuellement en Égypte. On reproche souvent aux médecins de faire un diagnostic tardif. Là, il a fallu seulement 3300 ans. Deuxièmement, ils ont isolé les globules rouges du tisserand, qui sont les globules rouges qui ont la forme de disques biconcaves comme les vôtres et les miens. Et ils ont reconnu que le tisserand appartenait au groupe sanguin B. Alors ça m'a beaucoup fait réfléchir. Il est mort sérieusement, ce tisserand, depuis 33 siècles. Et pourtant, il a encore son groupe sanguin. Donc, les groupes sanguins définissent l'homme mort aussi bien que l'homme vivant. Or, ce qui nous intéresse, c'est l'homme vivant. Et à ce moment-là, on arrive à une deuxième définition de l'homme, c'est la définition par son système nerveux et par son cerveau. Nous savons maintenant que c'est la mort du cerveau qui est la mort. Avec des appareils modernes, le cœur peut battre, le poumon peut respirer, mais l'individu est mort si son cerveau est mort. Et je crois que nous sommes en présence de deux définitions de l'homme, l'une par les groupes sanguins qui est valable pour tout être humain vivant ou mort, et l'autre par le cerveau qui est valable seulement pour l'être humain vivant. Et le travail du 21e siècle va établir la relation entre ces deux définitions.
Vous avez tout à l'heure un peu parlé de génération spontanée. Justement, j'aimerais vous poser une question qui n'a pas un rapport direct avec le livre. Mais enfin, là, j'en fais plutôt appel à votre intime conviction. Enfin, c'est sur l'évolution. Quelle est votre opinion sur l'évolution? Est-ce que vous pensez qu'elle a que l'évolution a un sens ou tout au moins une direction?
C'est très très difficile de répondre à votre question. Ce que je pense quand même, et ça je reprends des termes de mon cher et regretté ami le professeur Amburger qui est mort il y a quelques mois, il avait développé une idée très forte, à savoir que ce qui caractérise l'homme, c'est souvent son refus d'accepter l'évolution et le sort commun des êtres vivants, des animaux. Et l'homme est le seul animal qui, comme l'a très bien montré Amburger, est en rébellion contre la nature, et qui n'accepte pas la mort tout naturellement, qui se combat, et c'est après tout une définition de la médecine. Bien sûr, Albert Camus, dans L'Homme révolté, avait déjà évoqué des idées comparables. Et je crois qu'on peut répondre à votre question qu'il y a d'un côté une évolution biologique à nous assistons et qui est évidente, et de l'autre, une rébellion, une révolte qui est un déshonneur de l'homme.
Professeur Jean Bernard, je vous remercie pour cette visite guidée de votre Institut du Sang. Donc, je rappelle le titre de votre livre, qui est La Légende du Sang, qui est paru aux éditions Flammarion. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.